Oxy Radio, respire et écoute.
Bonsoir.
Voilà, donc on va commencer. Effectivement, 19h, c'est un peu tôt. Merci à tout le monde d'être là. Donc, il y a une force invitante dans cette soirée, une personne qui soutient l'association Libre Accès depuis le début, même qui est à l'origine de sa création, vu que l'aventure de Libre Accès a commencé le 20 juin en mairie du 2, et qu'on a finalement un parrain qui nous accompagne dans la démarche de Libre Accès, dans notre réflexion et dans le soutien aux artistes, qui est donc Jacques Gouteau, maire du 2e, et c'était important qu'il ouvre avec nous ses assises.
Merci Jérémy. Donc tu as tout dit. En tout cas, tu as fait part de ma conviction que la créativité sur Internet et sa diffusion doit être préservée, et notamment que toutes les lois qui aujourd'hui cherchent à limiter pour des raisons que l'on va voir, qu'on va débattre, limiter la diffusion de la créativité sur Internet, de la diffusion des œuvres sur Internet, c'est des projets de loi qu'il faut envisager avec énormément de tact, de parcimonie, de délicatesse, dirais-je. On a vu les tentatives de la loi d'Avzy qui avait posé le principe de la licence globale. On allait vers quelque chose qui n'était pas parfait, mais qui permettait, et c'est ma conviction, de rendre compatible la diffusion artistique sur Internet avec la rémunération des auteurs. Et puis, aujourd'hui, on est face à une loi qui a été inspirée par les quatre grands majors de la diffusion du disque sur Internet. Vous les connaissez, il y en a quatre aujourd'hui en France et peut-être dans le monde. Quatre majors d'ailleurs qui auront, si ce projet de loi arrive à son terme, par délégation, un droit de police sur Internet. Cette loi qui a été inspirée par ces quatre grands majors est une loi qui rend tout à fait incompatible la possibilité de créer et diffuser librement sur Internet quand on n'est pas un artiste reconnu ou un artiste qui émarge dans les grands groupes, que ce soit des groupes de diffusion musicaux ou des groupes de diffusion du livre. Donc moi j'ai cette conviction que ce n'est pas en ayant des lois qui sont attentatrices aux libertés fondamentales, et Internet aujourd'hui ça devient une des libertés, une de nos libertés fondamentales, que l'on résoudra le problème de la rémunération des artistes, qui est un vrai problème qu'il ne faut pas négliger. J'ai, en revanche, en tant que maire d'un arrondissement, où parmi mes responsabilités, j'ai celle de veiller à ce que l'éducation des élèves dans les écoles se déroule au mieux, j'ai la conviction que aujourd'hui, ce sur quoi nous devrions travailler et mettre l'accent, c'est sur l'éducation à l'art auprès des jeunes enfants. Or, l'éducation nationale se voit de moins en moins pourvue de moyens pour l'éducation à l'art. Celle-ci, l'éducation artistique, les horaires consacrés à la diffusion, à l'éducation artistique dans les écoles sont de moins en moins nombreuses. L'éducation à l'art est considérée comme secondaire. Alors moi, je ne suis pas un fan de Madame de Lafayette et de la Princesse de Clèves, mais c'est quand même un des premiers romans d'analyse français du XVIIe siècle, qu'on ne doit pas forcément apprendre par cœur à l'école, mais c'est pas inutile de savoir que cette œuvre existe, qu'elle a porté la création d'autres œuvres littéraires, et dire que c'est tout à fait inepte aujourd'hui dans notre société, dans notre monde, de s'intéresser à cette forme de culture, me paraît être à côté de la plaque. Parce que c'est en faisant comprendre aux plus jeunes que derrière une œuvre musicale ou une œuvre littéraire, il y a du travail, il y a un artiste, il y a vraiment beaucoup d'investissements, il y a une culture, il y a un chemin qui se fait, qui prend ses racines très très loin. C'est en faisant comprendre ça aux gamins, peut-être qu'on pourrait travailler à faire en sorte qu'il y ait une conscience beaucoup plus grande qui soit dans les esprits lorsque l'on télécharge tout et n'importe quoi sur Internet, en tout cas les œuvres les meilleures comme les pires, et que ce n'est souvent vécu non pas comme une œuvre d'art qu'on va écouter ou qu'on va pouvoir lire, mais comme de la marchandise. Et c'est bien au niveau de la marchandise qu'on ramène l'art, avec cette façon de concevoir la police sur l'Internet telle que le propose ce projet de loi. Voilà, moi c'est ma conviction. Alors peut-être on va avoir des débats, enfin si tout le monde est représenté, mais je crois qu'il y a quelques absences, c'est dommage puisque l'association Libre Accès et Jérémy avaient invité tout le monde. Donc moi c'est ma conviction, et c'est parce que je porte cette conviction que je soutiens ces convictions, que je soutiens Libre Accès, que je voulais les remercier d'avoir organisé ces assises, cette soirée, et puis remercier Jérémy Nestel et tous ceux qui travaillent autour de lui pour toute l'énergie qu'il a mis pour que ce moment de rencontre puisse avoir lieu. Voilà, très bon débat, et puis sans doute à bientôt. Merci.
Alors, juste une petite précision pour parler de Libre Accès, parce que Libre Accès, en fait, c'est un collectif qui travaille ensemble. Avec l'association Arcilo, avec l'association Musique Libre, qui dirige la plateforme Dogmazic, avec l'association Attention Chantier, avec Copyleft Attitude, avec des artistes comme Daltex ou le groupe Lona, la société d'édition In Libro Veritas, les sociétés de cinéma Cassandre ou Ralamax Productions, Macaque, des radios web qui sont montées comme la radio du ministère de la crise du logement, également des gens qui réfléchissent au statut du droit comme Veni Vini Libri, des jeunes radios comme Oxy Radio, des groupements de gens qui s'intéressent à la musique et à Linux comme Linux Mao, d'autres qui sont beaucoup plus dans un soutien professionnel au monde de la musique comme Quartz, ou des écoles de musique comme Musique Tangente. Voilà, tout ça c'est Libre Accès. On s'est réunis, on a un point commun auquel on croit pour l'art, c'est que nous on est persuadés que la copie de fichiers et l'autorisation de pouvoir écouter des œuvres librement diffusables favorisent qu'une chose, c'est des amateurs d'art. Et que nous, on a confiance en l'humanité. Cette confiance peut être aveugle, fait qu'on est persuadé que tant qu'il y aura des amis de l'art, des amateurs d'art, des gens qui aiment les artistes, eh ben on les défendra toujours. Et que c'est quand, à un moment donné, et le danger, c'est de diaboliser les artistes, d'en faire des marchandises, parce qu'à ce moment-là, on oublie que l'art, c'est quelque chose qui nous élève. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce débat. On va passer à la première table ronde avec Benjamin Bayard comme modérateur, Alain Lipietz, Mathieu Pasquini et Jérémy Zimmermann. Merci à tous d'être venus. Alors, juste une précision, il y a des feuilles et des stylos qui vont circuler. On a deux tables rondes et un concert avec un artiste qu'on souhaite vraiment vous faire découvrir qui s'appelle Sam. Donc, on ne va pas faire circuler le micro. Mais par contre, toutes vos questions, vous allez pouvoir les écrire. Il y aura des personnes, on va être plusieurs dans la salle à tout ramasser. En permanence, on fera la synthèse de toutes vos questions et à la fin, on les posera toutes de façon à ce qu'on puisse enchaîner deux tables rondes. Ces assises qui sont filmées, il faut préciser qu'on a tout fait pour avoir l'UMP, quitte à harceler tous les jours le cabinet d'Albanel. Ils ne sont pas venus, y compris Hervé Rogny du SNEP et Pascal Regard de la SACD. On voulait un débat contradictoire, on ne voulait pas être entre nous. On a fait ce débat parce qu'on s'est senti blessé à un moment donné de ce qui s'appelait les assises du piratage, parce qu'à un moment donné, on nie une culture, on nie des millions d'auteurs, des millions d'artistes qui autorisent la libre diffusion de leurs œuvres. Et on voulait échanger avec eux parce qu'on est persuadé que finalement il est temps d'inventer une troisième voie et qu'on arrête toutes ces lois liberticides. Voilà, merci à vous.
Merci Jérémy. Encore une toute petite précision et qui explique aussi peut-être pourquoi le choix a été fait de questions écrites plutôt que de questions orales. C'est une question d'horaire. La salle doit être libérée à 20h30. C'est une salle municipale, donc vous comprendrez que les personnels qui travaillent beaucoup doivent aussi rentrer chez eux. Donc c'est aussi pour gagner du temps. Donc sans vouloir jouer les pères fouettards, il faudrait essayer de se caler dans ce créneau horaire. Donc sans plus d'attendre, merci encore pour votre présence. Et je passe la parole à Mathieu qui va animer le débat. Non, c'est pardon.
Alors, juste une précision que j'ai oubliée. Il y a des ordinateurs là-bas. Donc si vous avez des clés USB, vous pouvez librement télécharger de la musique. On vous a préparé un catalogue d'œuvres cinématographiques, littéraires et musicales, voilà, qui nous font rêver.
Bonsoir. Alors, moi, je me retrouve assez ennuyé parce que dans ce débat-là, je ne suis pas complètement neutre. Alors, je vais me présenter en premier. Je laisserai le soin à mes collègues de se présenter rapidement après. Je suis donc Benjamin Bayard, président d'une association qui s'appelle French Data Network, dont le siège social est dans le deuxième arrondissement, mais ce n'est pas très intéressant, qui est le plus vieux fournisseur d'accès Internet en France. Ce qui fait de moi un des plus vieux défenseurs de la neutralité du réseau en France. Et donc forcément, dans ce débat-là, je ne suis pas neutre, puisque le projet de loi, les projets de loi dont on va vous parler visent entre autres à atteindre à cette neutralité. Et cependant, comme on a un absent, là, il va bien falloir que ce soit moi qui, pour garantir un petit peu de neutralité dans le débat, à défaut de la garantir sur le réseau, joue son rôle. Donc, messieurs, les arguments que vous n'aimez pas de la part des gens qui proposent ces textes de loi, je vais m'efforcer de les défendre, même si j'y crois pas forcément. Donc c'est un exercice de style qui n'est pas facile, qui demande parfois une épaisse mauvaise foi, parfois une forte conviction. J'essaierai de donner l'impression au moins de l'un des deux. Tout seigneur, tout honneur, monsieur Lipietz, je vous laisse commencer.
Seigneur, je ne sais pas, je ne suis qu'un élu du peuple.
Un homme politique trop honnête pour être candidat à la présidentielle.
Absolument.
Au final.
Alors, je suis député européen, vert, et je suis dans les commissions qui sont un peu à l'épicentre de toute cette bagarre, qui sont la commission économique, surtout la commission juridique, et par ailleurs la commission du commerce international. Et enfin, j'ai un champ d'application particulier puisque je suis le président de la délégation pour la communauté andine, c'est-à-dire des pays pauvres mais riches de savoir intellectuel indigène, c'est-à-dire Bolivie, Équateur, Pérou, etc. Bon, alors, pour s'en tenir à ce qui tourne quand même autour du genre d'œuvre qu'on produit ici...
Je veux juste qu'on fasse un petit tour rapide pour que tout le monde ait pu se présenter. Okay. Et puis on embraye juste après. Je présenterai les absents. Jérémy Zimmermann.
Bonsoir. Je suis donc effectivement Jérémy Zimmermann. Merci. Je suis cofondateur de la Quadrature du Net, qui est une initiative citoyenne que l'on a fondée avec Philippe Aigrin et Christophe Espern. Lorsqu'a fuité la première version du projet de loi Création et Internet, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, et qu'on s'est rendu compte que ce texte était une espèce d'infamie qui était en dépit de grand nombre de principes constitutionnels en plus du bon sens et de la marche de l'histoire. On s'est aperçu qu'avec ce projet, et une fois le président Sarkozy élu, il y avait un certain nombre de projets assez problématiques qui avaient tous en commun d'avoir cette approche un petit peu dogmatique des technologies qui ne seraient là que pour nuire, que pour faire du mal, que pour favoriser les pédos nazis, terroristes, et nuire aux acteurs en position dominante qui en avaient peur. Et donc on a fondé cette initiative pour informer les citoyens sur ces projets de loi, leur évolution, pour au passage expliquer comment on fait la loi, et puis comment, en tant que citoyen, on peut intervenir, jeter un petit peu de sable dans l'engrenage, ou crier très très fort, ou un petit peu tout ça à la fois, et essayer à notre niveau de changer un petit peu les choses. Et je vais un petit peu détailler sur ce qui a fait qu'on a à un moment mis le pied à Bruxelles dans le Parlement européen, parce que la riposte graduée de Nicolas Sarkozy était en train de se propager à l'Europe, et comment aujourd'hui on est actif sur non pas un ni deux mais trois projets de loi en même temps qui concernent directement les libertés individuelles dans l'environnement numérique.
Donc moi, je m'appelle Mathieu Pasquini, je suis le gérant et fondateur d'une maison d'édition qui s'appelle In Libro Veritas, qui a pour but l'accès, le partage et l'échange démocratique, universel et fraternel du savoir et de la culture. Voilà, donc c'est une maison d'édition qui publie des livres et j'ai la chance et l'avantage de pouvoir le faire sous des licences libres qui permet donc aux œuvres d'être diffusées, recopiées, parfois même modifiées quand la licence le permet, tout autour du monde. Et On a comme ça des exemples de livres qui ont été téléchargés à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. L'auteur bien chanceux est parmi nous, c'est un petit jeu, le premier qui trouve qui parmi nous est l'auteur qui a eu un lectorat de plusieurs centaines de milliers de personnes dans cette salle a gagné son livre. Voilà, non, je plaisante un petit coucou en passant aux tous les artistes qui donc ont décidé d'être, plutôt que de vendre leurs œuvres, ont préféré les offrir au monde. Voilà.
Alors, pour essayer de défendre les absents, donc Monsieur UMP, qui est là, qui va venir dans un environnement hostile, parce qu'on est quand même quatre contre lui, pour essayer de nous expliquer pourquoi ils font tous ces textes de loi-là. Basiquement, pour plusieurs bonnes raisons. La première, c'est que ça commence à suffire le fait qu'Internet soit un lieu de pillage, de piratage, de vol en bande organisée, d'à peu près tout ce qui peut exister. Que les espaces de non-droit, c'est très gentil, mais il conviendrait que ça cesse. Que, objectivement, l'industrie de la création est en danger. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires des producteurs de musique est en chute libre. L'exception culturelle, c'est quand même ça. C'est quand même le fait qu'il puisse survivre une culture en France. Et il ne peut pas survivre de culture en France s'il ne survit pas de créateurs et de producteurs. Voilà, le raisonnement de base, c'est celui-là. Et c'est pour ça que ces textes sont proposés et que ces textes correspondent à un équilibre qui avait été mal trouvé dans la loi sur les droits d'auteur il y a 2-3 ans, qui a été nettement amélioré et nettement affiné pour trouver un texte assez juste qui permette de manière intelligente d'éduquer les enfants à ne pas voler comme des bandits de grand chemin sur Internet.
Bien, alors je vais d'abord rapidement essayer de vous présenter à la fois les bagarres en cours et le cadre plus général dans lequel elles se tiennent. Alors les bagarres en cours, il y en a eu 3 déjà au Parlement. La première, c'était sur le logiciel libre qu'on voulait soumettre à l'Institut européen des brevets, l'Office européen des brevets. Ça s'est traduit par une victoire, c'est-à-dire qu'on ne met pas sous l'autorité de l'Office européen des brevets, mais comme on n'a rien fait d'autre à la place, l'Office européen des brevets continue son jeu d'intimidation. L'Office européen des brevets n'appartient pas aux institutions de la communauté européenne. C'est quelque chose d'à part. Donc, tant qu'on n'aura pas légiféré nous-mêmes, on ne pourra pas protéger véritablement la création libre d'objets de l'Internet, hein, c'est-à-dire de logiciels, de progiciels, de gratuiciels, de peinticiels, etc., etc. Deuxième bataille sur laquelle mon voisin interviendra un peu plus longtemps, mais enfin, je vais vous dire quand même un petit mot, c'est celle qui est la contrepartie européenne de la DAPI. Hein. C'est-à-dire qu'on était parti dans un paquet sur les tuyaux, qui s'appelait le paquet télécom. Et subrepticement, le quatrième intervenant, qui avait essentiellement pour masque M. Toubon, qui l'a toujours d'ailleurs, introduit discrètement comme ça des petits amendements auxquels personne n'a rien compris dans les différentes commissions, qui étaient des petits morceaux de la loi ADAPI. Et il en a mis dans 2 rapports, un qui était géré par Madame Trottmann et un qui était géré par Monsieur Arbour. Et alors, une personne extrêmement, avec l'œil perçant qui est ici, Laurence, a repéré tout de suite ces petites bombes qui se cachaient dans les rapports. Et la bataille a pu avoir lieu avant la plénière et nous sommes arrivés à déminer au moins un des 2 rapports. Par 2 amendements aujourd'hui célèbres, le 138 et le 166. L'un qui dit on ne peut pas faire ce que dit la riposte graduée, hein, c'est-à-dire violer les lois fondamentaux au sens de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux, notamment les fouiller dans le courrier des gens, etc., le courrier électronique. Et puis un deuxième plus positif qui dit carrément, c'est l'amendement 166, qui dit que les États membres s'assureront qu'on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'aucune limite ne sera mise aux droits des usagers, si ce n'est par une décision a priori, enfin a priori avant le coup de la justice, et sans violer les droits fondamentaux des citoyens au privé et à un procès équitable. Parce que, comme vous le savez, ADAPI, c'est à la fois le viol du privé et, en même temps, des procès inéquitables, puisque c'est pas un agent public qui vient vous espionner, on peut être inculpé sur la base sans qu'on sache exactement de quoi on est inculpé, et ainsi de suite. Bon, alors, immédiatement, la France a fait savoir qu'elle ne considérait pas que ce vote l'empêchait de faire la loi ADAPI. Et immédiatement, la commission, notamment la commissaire chargée du dossier, a dit « mais si, ce vote du Parlement dit très clairement que vous ne pouvez pas faire la riposte graduée, ça viole la loi, la charte des droits fondamentaux ». Alors, on arrive maintenant en deuxième lecture. Il faut savoir qu'en deuxième lecture, ces deux amendements ont déjà sauté. Hein. La deuxième lecture, c'est une fois que le Conseil, c'est-à-dire l'ensemble des gouvernements, s'est réuni pour réagir à la première lecture du Parlement. Ça revient en deuxième lecture au Parlement. Mais dans la version que proposent donc maintenant les gouvernements, ces deux amendements ont déjà sauté. Donc il faut une énorme bataille pour les faire remettre. Je crois qu'il faut que tous ceux qui sont ici, tous les réseaux ici représentés, se battent pour faire remettre ces deux amendements fondamentaux. La session où ça sera voté étant en avril. Donc on n'a pratiquement qu'un mois et demi de mobilisation devant nous. Alors par ailleurs, il y a un tas de petites bombes qui sont en train d'être désamorcées, qui restaient dans l'autre rapport, parce que, sous la forme, les contenus illicites. C'est doublement pervers. D'abord, c'est la condamnation des contenus illicites apparaît dans l'autre rapport, celui de M. Arbor, qui ne porte que sur les tuyaux. Donc ça viole ouvertement la neutralité des tuyaux. Par la poste, on peut faire la poste papier bébête, hein, qui date du XVIIe siècle, on peut faire circuler tous les contenus. Mais là, on nous dit qu'on ne peut pas faire circuler les contenus illicites. Mais tout le monde le comprend. Illicite, ça veut dire pédophile, ça veut dire nazi, ça veut dire etc. En fait, ce n'est pas ça du tout. C'est évidemment tout ce qui viole les droits de propriété des majeurs. Alors, on va y revenir. Mais donc, je dis un mot de la troisième bagarre qui s'engage ce matin en commission jury, où on a tout perdu, évidemment, parce que la commission juridique est la plus droitière, elle est beaucoup plus à droite que la plénière. C'est celle sur la prolongation des droits d'auteur et droits connexes. Notamment, les majors de la production ont obtenu de repousser de 50 à 95 ans leur droit de propriété exclusive. Alors, il y avait deux batailles pour dire non, non, tout simplement, et une bataille intermédiaire qui, elle, est soutenue par les diffuseurs, par exemple le cinéma, hein, quand vous voulez, au cinéma, si cette directive passait, on devrait, quand au cinéma, on évoque une ambiance en 1960, si la loi passe en 1910, en 2010, donc ça fait 100 de moins, à partir de 1960 et en remontant dans le temps, on ne peut plus citer une chanson. C'est-à-dire, vous faites un film sur l'année 1960, tu parles des soldats de la guerre d'Algérie, hein, ils écoutent quelque chose au transistor, et bien on doit payer aux producteurs de la chanson qu'ils écoutent au transistor. Vous imaginez où on va. Alors, on a été battu sur toute la ligne, mais il y a une bataille. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, quel est le contexte dans lequel tout ça s'insère. Alors, je le vois aussi du côté de la Commission commerce international, aussi de ce qu'on essaie d'imposer à la Bolivie ou à l'Équateur. C'est dans un monde où les biens communs, et en particulier, alors les biens communs atmosphériques, par exemple, avec la question de la pollution et de l'effet de serre, ou les biens communs de la création intellectuelle, prennent de plus en plus d'importance dans la vie quotidienne et dans l'économie, il y a des gens, des puissances monopolistes, quatre majeures pour le monde entier, qui essaient de faire ce qu'on appelle une enclosure des biens communaux. Hein, comme à la fin du Moyen-Âge, les plus riches paysans avaient enclos les champs communaux, où les paysans avaient jusque-là le droit de faire paître leurs vaches, etc. Ça correspond à la fois à la montée de ce qui est important des deux côtés, à la fois du côté de l'espace de vivre et de l'espace créé intellectuellement. Et donc, on a ce paradoxe dans lequel on doit maintenir ces biens communs qui croissent maintenant à une vitesse grand V comme des vrais biens communs de l'humanité, tout en assurant la rémunération de ceux qui les entretiennent. Et c'est ça un peu la difficulté qu'on va avoir dans les débats, ces deux tables rondes. Comment assurer que la création culturelle soit effectivement un bien commun tout en assurant une certaine rémunération des artistes. Je dis bien rémunération, c'est un très joli mot, rémunération, puisqu'il vient du mot munus, qui veut dire en latin à la fois don et charge, hein, qui est le symbole de la réciprocité, je donne pour que la communauté me donne. Hein. Du mot munus vient commun, hein, ce qu'on a en commun, le réseau des dons et des charges, mais aussi le mot rémunération. C'est-à-dire, il faut bien que ceux qui donnent aient quelque chose qui vienne assurer leur existence quand ils prennent en charge d'alimenter ce bien commun, de le faire croître intellectuellement, par exemple, mais aussi, dans le cas des peuples indigènes, quand ils ont, depuis des siècles et des siècles, identifié tous les propriétés, par exemple pharmaceutiques, des plantes qui les entourent. D'où un colloque que nous avons tenu avec Philippe, ici présent également, et qui sera dans la deuxième table ronde, je crois, hein, sur comment se fait-il qu'on peut se battre à la fois contre la rémunération, enfin, pour la gratuité du logiciel, mais en même temps pour la rémunération des peuples indigènes. Je crois que ça renvoie à ce problème fondamental. Le monde va de plus en plus fonctionner avec des biens communs. Il faut à la fois assurer le libre accès, mais régulé, de façon à ce qu'il ne soit pas saccagé, et surtout qu'il ne soit pas approprié par des gens qui n'ont participé en rien à sa création, ni intellectuelle ni physique, tout en assurant quand même de quoi vivre à ceux qui travaillent effectivement à l'enrichir.
On essaye de faire une toute petite pause entre l'aridité juridique. J'aimerais bien que Mathieu nous explique ce que fait In Libro Veritas, parce que ce qu'Alain Lipiette vient de nous expliquer, c'est comment, par des artifices assez bizarres, on essaye de privatiser le bien commun. Ça revient à ça, basiquement. En ce moment, ça se joue autour de la culture et de l'art, mais ça s'est joué autour de la pharmacopée, des plantes, du vivant. Enfin, je veux dire, breveter le vivant, c'était quand même extraordinaire, je trouve. Et je trouve que la démarche de In Libro Veritas donne une approche qui parle de création, et qui parle de création de manière commune, qui parle vraiment de bien commun. Donc, je pense que c'est intéressant.
Tu as juste aridité toi-même.
Ouais, voilà. Et je pense qu'après, ce sera intéressant que Jérémy nous raconte comment ça se goupille sur le paquet télécom. Parce que pour le coup, il y a des morceaux vraiment arides, mais vraiment intéressants.
Alors, In Libro Veritas a été fondé en janvier 2005, donc ça fait 4 ans que ça existe, et il y a un énorme intérêt à ça, c'est que maintenant je commence à avoir un peu de recul et un peu d'expérience sur justement la gestion, on va le dire comme ça, du bien commun culturel, intellectuel, artistique, dans les fameux tuyaux dont parlait Alain. Je vais commencer par le début, c'est couillon à dire, mais quand j'ai ouvert In Libro Veritas, j'ai instantanément effectivement proposé aux gens de venir écrire en ligne et d'être édité, avec deux principes fondamentaux qui aujourd'hui ne sont évidemment pas déjugés. Un, il n'y aurait aucune cession de droit entre les artistes, les auteurs et moi-même, en tant qu'éditeur, alors que jusqu'à aujourd'hui c'était la règle du jeu, donc on fait une cession de droit de l'auteur vers l'éditeur. Moi, je refuse ça. Donc je ne veux pas qu'on me cède de droit. Je ne veux pas mettre l'auteur et ou son œuvre à l'intérieur d'une prison en or. Je préfère que tout ça soit libre. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, la publication en ligne devait être sous des licences de libre redistribution et diffusion type Creative Commons, licence art libre, etc. Les premiers mails que j'ai reçus étaient « Moi, je veux bien écrire chez vous, ça a l'air tout à fait sympathique, mais si jamais on me vole mon œuvre ?» Voilà. Et moi, je répondais immanquablement, mais par qui ? Qui va voler votre œuvre et pourquoi ? Et immanquablement, on me répondait, je ne sais pas, moi, n'importe qui. D'accord, mais qui ? Qui, ce n'importe qui, va voler votre œuvre ? Qui, cette suffisamment incroyable œuvre que vous allez mettre sur Internet, va être instantanément, évidemment, attrapée par des grands méchants qui ne sont pas représentés ici, faire des milliards de dollars sur votre dos. Et alors moi, je prenais le pari, je dis, écoutez, si ça arrive, je vous rembourserai ces milliards de dollars. Vous me voyez là, j'ai jamais eu besoin de rembourser qui que ce soit, pour la bonne et simple raison, c'est que malheureusement, dans 99,9% des cas, les œuvres ne sont pas spoliées. Et je peux vous dire que les premières œuvres que mettent les auteurs sur Internet,
quand ils ne savent pas bien comment ça marche, ils utilisent une licence qui dit pas d'utilisation commerciale par quelqu'un d'autre, pas de modification, citez bien la source, etc. Puis ils mettent l'œuvre en disant mon Dieu, je vais me la faire voler, puis en fait, il ne se passe rien. Mais rien du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'auteur bouge et dit vous savez, je suis là. Ouh, je suis là. Puis il saute sur lui-même, il met un grand panneau avec écrit téléchargez-moi qui clignote. Et il se passe toujours rien. Puis maintenant, il s'énerve. Et puis il met ça sous GNU/GPL en disant ça fera peut-être arriver du monde. Et puis il se passe rien du tout. Et aujourd'hui, on se rend compte que les œuvres qui avaient été mises sous des licences avec des restrictions type pas d'utilisation commerciale, etc., les auteurs libèrent complètement les œuvres en se disant bah, c'est un moyen pour moi de faire la promotion d'abord de mon œuvre, puis ensuite de moi-même, afin de pouvoir. Si ce n'est en vivre, ce qui est quand même extrêmement difficile, parce que je rappelle qu'en France, je pense, les chiffres sont absolument impossibles à avoir, mais il y avait une étude qui était parue il n'y a pas très longtemps dans un grand quotidien français qui disait que, en vrai, pour de vrai, en France, il y a une vingtaine d'auteurs, je parle de littérature, qui vivent de leur plume en France. Mettons à côté les nègres, je ne parle pas de Pascal, mettons à côté donc. Les porte-plumes et les gens qui travaillent pour les dictionnaires, etc. C'est des cas un peu particuliers. Donc, il y a 20 personnes en France qui vivent de leurs plumes. Donc, vous avez 99,99% des gens qui ne vivent pas de leur écriture, mais qui en gagnent un petit peu, beaucoup, pas beaucoup, d'argent avec. Voilà. Mais ce qui compte avant tout, finalement, in fine, c'est quoi ? C'est est-ce que je souhaite que l'œuvre que j'ai faite, elle reste dans un tiroir, ou est-ce que je veux qu'elle soit diffusée ? En fait, la grande question qui se pose, c'est est-ce que tu préfères que je te connaisse pas ou que je te télécharge illégalement ? Ça, la vraie question. Finalement, au bout du compte, moi, si tu veux pas que je te télécharge, il n'y a pas de souci, tu restes dans un coin et je vais prendre celui-là. Je continue dans les exemples. Aujourd'hui, je peux démontrer que sur une Libro Veritas, les œuvres qui sont les plus téléchargées, donc qui sont les plus échangées, sur lesquelles il y a le plus de fluidité, sont les œuvres qui sont les plus vendues. Et les œuvres, et c'est, vous allez voir que c'est complètement idiot ce que je vais dire, ceux qui me connaissent le savent bien, mais les œuvres qui ne sont pas téléchargées sont des œuvres qui ne sont pas vendues. Et ça, ce côté-là du miroir, les majors oublient toujours de nous le dire, c'est que finalement, in fine, ne sont téléchargées que les œuvres que les gens connaissent. Ne sont piratées, j'aime pas ce mot-là, mais téléchargées illégalement que les œuvres que les gens connaissent. Et ce n'est donc pas un problème d'échange de fichiers. L'exemple, et je pense qu'on en reparlera, Nine Inch Nails a gagné plusieurs millions de dollars en laissant évidemment ses œuvres en libre téléchargement puis en vendant des produits manufacturés. C'est donc un problème marketing. C'est un problème, c'est comment je me fais connaître. Comment moi, aujourd'hui, je peux atteindre la population, le maximum de personnes ici, de personnes, comment je touche mon public. Parce que fondamentalement, la vérité, me semble-t-il, dans tout ça, c'est pas que les œuvres circulent, mais c'est comment faire pour que mon œuvre circule. Comment faire pour que moi, qui suis créateur et qui ai fait une création, non pas pour qu'elle reste dans un tiroir, ou alors j'ai rien compris à la création, ce qui est possible, mais comment je fais moi, donc, pour que ces œuvres circulent. Et c'est ça l'objectif d'In Libro Veritas, et c'est ça qu'on tend à démontrer. C'est les auteurs les plus actifs, les plus en pointe, ceux qui se démènent et qui essaient de faire le mieux, et qui essaient de faire aussi leur propre promotion, sont les auteurs qui sont les plus lus et qui sont les plus téléchargés et par corollaire, sont aussi les plus achetés, ceux qui gagnent le plus d'argent. Voilà, c'est aussi bête à dire que ça. Et je vais laisser la parole à Jérémy qui va rentrer sur d'autres détails. Mais voilà, grosso modo, ce que je voulais passer comme message. Et je voudrais, moi, juste faire un petit dernier point sur la loi Hadopi qui nous intéresse un petit peu ce soir et dont Jérémy va vous mettre en garde sur les dangers potentiels, parce qu'il y en a et c'est extrêmement important. Moi, je pense qu'il faudrait absolument qu'on se batte tous pour demander l'abrogation de ces lois ou l'interdiction de cette loi, ou en tout cas de cause, un moratoire sur cette loi pour étudier un petit peu ce qui se passe dans les autres pays. Voilà. Et je souhaiterais qu'on si on pouvait mettre en place un Grenelle de la culture dans lequel l'ensemble des acteurs culturels, mais pas seulement des artistes, mais pas seulement des producteurs, mais aussi toute la chaîne de diffusion, de distribution, les bibliothécaires, pourquoi pas la grande distribution dans un immense débat qu'on aurait tous ensemble sous l'égide du ministère de la Culture pour se poser enfin les vraies questions, les bonnes questions et mettre à plat toutes les problématiques auxquelles on est confronté tous les jours et auxquelles finalement Internet nous met en plein jour. Voilà, je pense qu'il est temps qu'on se mobilise tous pour faire changer les choses, parce que si on ne se mobilise pas, d'autres sont en train de le faire, et ce n'est pas du tout l'Internet, à mon avis, que vous souhaitez, qui est en train de se mettre en place, et ça, Jérémy va nous l'expliquer, va sûrement l'expliquer beaucoup mieux que moi.
Il y a un point de vocabulaire que je veux préciser, j'ai vu que tu accrochais sur le mot pirate. Alors ça, c'est un truc, j'aime bien, un pirate, tout le monde sait ce que c'est un type avec un bateau, qui attaque un autre bateau avec une arme. Dans les bandes dessinées, il a même un crochet à la place de la main, et quand il se gratte l'œil, il se fait mal. D'accord ? Ouais, c'est celui-là. Ça, c'est un pirate. Un gamin qui télécharge de la musique, c'est pas un pirate, il a pas de bateau. Puis il a pas de perroquet, oui. Donc, c'est pas un pirate, c'est un téléchargeur. C'est un téléchargeur de contenu dont il ne détient pas la licence, si on veut utiliser le mot complet. Et forcément, ça fait beaucoup moins sexy dans la presse, mais un pirate, c'est pas ça. Et même quand on reprend le terme pirate en informatique, un pirate informatique, c'est quelqu'un qui est muni d'un ordinateur et qui va attaquer et prendre possession de l'ordinateur d'en face. C'est un pirate d'ordinateur au lieu d'être un pirate de bateau. Il fait pas ça, le gamin qui télécharge. Son ordinateur, il s'en sert pas pour attaquer l'ordinateur de quelqu'un d'autre et il prend la possession d'aucun autre ordinateur. C'est pas un pirate. Le terme pirate est totalement inadapté. C'est un téléchargeur. Voilà, Jérémy, je te laisse la parole.
Bonsoir. Alors oui, on m'a chargé de plusieurs missions que je ne remplirai pas ce soir. On m'a dit que j'allais vous barber avec des détails techniques et juridiques et je me suis promis de ne pas entrer dans les détails. Sur la petite parenthèse que vous venez de faire sur le mot pirate, moi je suis très très content, même si je me refuse évidemment à utiliser ce terme, qu'il soit employé par les archaïques que nous combattons chaque jour, parce que en fait pour tous les gamins qui ont 10-15 ans, un pirate c'est quoi? C'est Johnny Depp, s'ils ont un peu de culture c'est Rolf Lynn, c'est bon, le capitaine Crochet il est pas vraiment pas plus sexy que ça, mais voilà, c'est un type sexy qui part à l'aventure, qui vole des trésors, qui a plein de trucs brillants, voilà, des filles, du rhum, etc. En fait c'est plutôt cool un pirate, donc bon, après ils auront à payer les frais de leur analogie. Et non, en fait, plutôt qu'essayer de vous barber avec des textes de loi, je me suis dit que j'allais essayer de faire une espèce de petit précis du citoyen actif, parce que voilà, on disait c'est un pirate, c'est un utilisateur d'Internet, c'est un quelqu'un qui va télécharger sans autorisation, mais c'est aussi, également, incidemment, un citoyen. Donc quelqu'un qui a des droits, des libertés fondamentales pour lesquelles des gens sont littéralement parfois morts, que certains appellent des acquis sociaux ou des choses comme ça, une constitution, une charte fondamentale des droits de l'homme, des menus détails comme ça, qu'il convient de protéger, je pense. Et donc je vais essayer de tracer quelques parallèles, de déduire quelques points communs entre les projets que l'on voit, que l'on combat, que l'on essaye de contrer. Et j'espère vous intéresser avec ça et vous montrer que, quelque part, c'est pas si difficile que ça, enfin, c'est quand même un peu difficile, mais de se bouger, de se remuer et d'essayer d'arriver à quelque chose pour les contrer. Déjà, les projets de loi que l'on a en face de nous ont tous en commun de défendre des intérêts particuliers, des intérêts économiques puissants, bien installés, souvent dans des positions monopolistiques ou quasi-monopolistiques, ou des ententes, qui ont peur du changement, qui ont peur de perdre ce contrôle qu'ils ont sur un marché, ce pouvoir, et qui vont donc bricoler, souvent à la hâte, souvent un petit peu n'importe comment, à notre grand avantage, des espèces d'usines à gaz, des machins complètement improbables d'un point de vue purement juridique. Alors heureusement, on a une bonne partie de juristes avec nous qui s'arrachent les cheveux en lisant le texte de l'Adopi ou du paquet télécom, parce qu'on est obligé d'arriver à un tel niveau de détail dans une espèce de construction, une espèce de dentelle juridique qui tourne en rond autour d'elle-même pour essayer de dire autrement qu'on veut garder du pouvoir. On est obligé de dire, alors on va mettre en place une autorité administrative qui sur dénonciation d'acteurs privés. Et donc, on construit des usines à gaz, Et sur le processus même de l'élaboration des lois, il y a aussi des points communs. Quand Alain disait tout à l'heure que c'était notre ami de la chaise vide, notre ami politique de la chaise vide, qui était à l'origine de ces projets de loi, je vais un tout petit peu apporter de nuances à ça. Nous, on a remarqué au contraire que dans tous les partis politiques, sans exception, il y avait ce que l'on appelait le courant vivendiste, ou en tout cas des gens qui défendaient ces intérêts sectoriels au mépris de l'intérêt général, de l'intérêt de leurs électeurs, et très souvent du bon sens. Et il suffit pour ça, alors là maintenant c'est avec Mathieu que je vais être un petit peu en contradiction, Benjamin voulait de la contradiction, alors je vais essayer d'en apporter, mais si une vraie réflexion de fond devait se faire un jour sur la culture et avec tous les acteurs, ce serait certainement pas avec le ministère de l'Inculture que ça devrait se faire. Parce que quand on regarde comment aujourd'hui le ministère de la Culture et son cabinet sont infestés de lobbyistes anciens, futurs, courants, et le pantouflage va dans tous les sens entre des gens qui viennent de telle maison de production pour aller ensuite au ministère, pour ensuite y retourner, pour aller dans l'audiovisuel, etc. C'est sur la structure même des institutions qui la plupart du temps sont composées de gens qui ne sont pas élus, que l'on peut trouver là aussi des points communs. Alors je me garderai bien de donner des noms. mais voilà, il y a quelques paramètres communs. Un autre paramètre commun, et moi j'aime à donner cette analogie, est que ces projets de loi que l'on observe sont un petit peu comme des vampires. Ils avancent masqués, profitent de l'ombre, tapis dans l'ombre. Bon, ils ne se nourrissent pas nécessairement de sang, mais à l'instar des vampires, dès que l'on braque la lumière sur eux, ils ont tendance à se déballonner, à se dégonfler, parfois même à disparaître. Alors ça a l'air un petit peu magique comme ça, mais on a quelques exemples déjà en date qui sont notamment l'histoire de la baston autour des brevets sur les logiciels, où beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont envoyé beaucoup, beaucoup d'emails et passé beaucoup de coups de fil au Parlement européen jusqu'à ce que le Parlement européen tout entier dise « Ouh là 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 là, on veut pas d'emmerde ». Si on vote oui, ça va nous péter au nez, alors on vote non. Et même les gens qui initialement étaient pour le texte ont finalement voté non parce qu'ils avaient peur voilà, que ça leur pète au nez. Des exemples, on en a quelques-uns. Certaines dispositions très très néfastes du paquet télécom que l'on a dénoncé ouvertement en expliquant bien comment elles étaient arrivées là, par quel biais politique, quel groupe de pression, quand il s'agissait du SACD français par exemple, avait envoyé quelle lettre, à quel moment, à quel député européen pour qu'il le vote, sous quel prétexte. Et quand au début tout le monde nous disait « vous êtes complètement paranoïaque, complètement fou, vous voyez le mal partout, fearmongers », on disait aussi en anglais, bah, quand on a republié la lettre que le SACD avait envoyée aux membres de la commission culture en disant « votez tel et tel amendement qui nous permettront une approche intelligente et graduée pour lutter contre le piratage bon, », bah, force était de constater qu'on n'était plus si benêts et paranoïaques que ça. Alors du coup, parce qu'on était, quelques-uns, donc avec Philippe ici présent et Christophe Esperne à qui on a fondé ça, commencer à acquérir un petit peu de bouteille. Bon, c'est pas parce que j'ai la moustache et que je commence à avoir un ou deux cheveux blancs que je dis ça, mais on est passé au travers de quelques projets de loi, quelques directives, quelques projets de modification de décrets, bref, tous les biais possibles et imaginables pour passer ces âneries. Et donc on a repéré un petit peu ces paramètres communs. Et on a commencé à mettre en place des méthodes, des outils qui nous permettaient de collectivement, plus efficacement, informer les gens donc sur ces projets, sur les processus qui conduisaient à leur élaboration, mais aussi donner des outils pour que chacun puisse participer à aider à les contrer. Et donc la quadrature du net, c'est ça. C'est une espèce de caisse à outils qui permet à chacun, qui a un tout petit peu de temps devant soi, mais pas trop, ça peut ne prendre que 5 à 10 minutes, je vous assure, de venir voir qu'est-ce qui se passe déjà avec la doping, qu'est-ce qui se passe avec le paquet télécom, de se renseigner, de voir qui dit quoi, qui fait quoi, quels sont les points un petit peu chauds, et de voir très facilement qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on a mis par exemple à disposition du public un outil qui s'appelle Mémoire politique. C'est Gibus, Gérald Cedrati Dinet, qui ne, hélas pas parmi nous ce soir, mais s'il nous regarde via internet, je lui fais coucou et un bisou, et qui est quelqu'un d'exceptionnel, qui en plus d'être notre analyste de choc, est un codeur talentueux, et nous a fait un outil web donc, qui s'appelle Mémoire Politique, dans lequel chaque député européen et chaque député français a sa fiche. Nous, on fiche les gens aussi, mais bon, qu'à base de données publiques, je vous rassure. Et donc, il a sa fiche où on peut cliquer sa commission, son étage dans le bâtiment du Parlement européen, les projets de loi qu'il a votés et voir ce qu'il a voté. On peut voir ses prises de position publiques. On peut cliquer sur une petite icône pour l'appeler automatiquement avec son ordinateur et son logiciel de voix sur IP préféré. Et donc, comme ça, très facilement, trouver qui dit quoi, qui fait quoi. Et quand on dit, oula, il faut appeler les gens de la commission IMCO, Parlement européen, il y a un lien vers la commission IMCO, il y a le nom de chacun, il suffit de cliquer sur chacun les uns après les autres pour leur dire ah, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas pour ça que j'ai voté pour vous. Et donc voilà, ça c'est la partie caisse à outils. Alors par exemple, petit exemple parce que c'est bouillant d'actualité, je vais pas trop m'étendre sur le sujet, en ce moment il y a donc le rapport Medina sur le droit d'auteur. Benjamin, il va falloir qu'à un moment tu me dises de me taire, hein. J'ai encore quelques minutes. D'accord.
Pour Medina, oui.
Alors, il y a le rapport, il y a trois points. Il y a le rapport Medina sur le droit d'auteur, qui est une espèce. On a le droit de dire merde noire dans le micro, non? Non, pardon. Qui est une espèce de texte vraiment pas bien. Non. Un truc vraiment pas bien. Sur le droit d'auteur, qui était censé faire le bilan d'une directive de 2001 UCD, qui a donné la loi d'Atzi en France, qui a juste pas marché, mais qui commence par dire « Oh, ça marche très bien, il faut surtout rien changer. » Et puis, tant qu'on y a rien changé, il faut aussi mettre « Alors, il peut se graduer, il faut filtrer Internet, il faut que les opérateurs soient responsables de tout ce qui passe par leurs tuyaux, etc. » Donc, des trucs complètement aberrants, basés sur aucune étude, aucun chiffre, rien, alors qu'il y a au contraire des études qui annoncent le contraire. Donc là, c'est très simple. Vous allez sur la quadrature du net, vous regardez l'article du 26 janvier qui parle du rapport Medina, qui décrit en à peu près ça, d'un écran, les points qui vont pas. Et puis vous cliquez sur Mémoire Politique, vous allez voir vos députés, vous passez un coup de fil. Allô, bonjour, j'ai voté pour vous, même si c'est pas vrai. Je vais peut-être voter pour vous, même si c'est pas vrai. Et si vous votez le rapport Medina, bah, vous pouvez être sûr que je voterai pas. Voilà, merci, au revoir, clac. Ça vous a pris quoi? 2 minutes. Donc ça, c'est Medina, c'est quasiment le plus simple. Le vote se fera sans doute le 9 mars, donc il va falloir se dépêcher dans les jours qui précéderont. Ensuite, il y a le paquet télécom dont parlait Alain. Alors, c'est d'une complexité diabolique. Là aussi, on a fait un petit document d'une page qui explique tout ce qui ne va pas dedans, qui reste depuis la première lecture, où on a pas mal carchérisé, si je puis me permettre, ce néologisme, une bonne partie des éléments qui avaient trait à la riposte graduée, et où donc Nicolas Sarkozy comptait utiliser la présidence française de l'Union européenne pour légaliser la riposte graduée, qui n'est toujours pas légale en droit européen, et d'ailleurs en droit français sans doute pas non plus. Et non seulement la légaliser, mais permettre à d'autres États membres de la mettre en œuvre. Ah, ben, fail, comme on dit dans le grand monde de l'Internet sauvage, parce que bon, une bonne partie de ces dispositions ont été dégagées suite au barouf que l'on a fait. On a parlé de l'amendement 138 et du 166, mais aussi un grand nombre de modifications de fond qui ont été effectuées et qui sont là pour rester. Et il y a un petit nouveau par rapport à la première lecture, qui est cette histoire évoquée par Benjamin Bayard de la neutralité du réseau. Avec là encore un jargon technique à la mort moelle Schtroumpf, qui parle de Network Management Policies, donc des politiques de gestion de réseau, qui pourraient, vous comprenez, afin de stimuler la compétition et d'offrir de nouvelles offres, etc., que l'opérateur Internet décide de qui accède à quel contenu, à quel service et à quelles applications. Vous n'en faites pas, c'est pour votre bien. Ça s'appelle juste plus Internet, hein, ce qu'ils essayent de faire, mais c'est pas très très grave. Et donc là, sur le paquet télécom, on va là aussi communiquer assez simplement ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire pour agir dessus. Et puis, j'ai gardé le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau sur le gâteau. La loi Hadopi en France, qui sera peut-être examinée à l'Assemblée nationale le 4 mars, peut-être un peu après si la loi sur les hôpitaux déborde. Et là, bah, c'est très simple. On a publié un dossier de 42 pages, qui est un dossier à charge, je ne vous le cache pas, qu'on a remis ce matin avec Philippe aux membres du groupe d'études Internet de l'Assemblée nationale, que j'ai remis dans une version un peu plus bêta, comme on dit sur Internet, au rapporteur Franck Rister. Donc ils ont désormais toutes les cartes en main, et il va falloir qu'ils assument le risque politique que ça représentera de passer un tel machin. Donc un truc que vous pouvez faire, qui est très simple, c'est de lire le dossier de 42 pages, bon, pas si simple que ça. Allez, on va dire que vous lisez pas les annexes, mais lire les 20 pages et survoler les annexes, ou alors juste lire la note de 2 pages qui synthétise tout ça. Et puis là encore, allez cliquer sur Mémoire politique, trouvez votre petit député, l'appelez et lui dire « Oh Coco, c'est pas parce que les élections sont dans 4 ans que je vais t'oublier d'ici là. Et j'ai voté pour toi, et tu sais, Internet, ça n'oublie jamais. » Et ben, si tu veux qu'on en reparle dans 4 ans, ben, t'as qu'à voter ce texte. Alors ça a l'air un peu méchant comme ça, mais ils sont plus méchants que nous, et puis c'est eux qui ont commencé. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est quand vous passez le coup de fil... Oui, je m'arrête tout de suite. Tout de suite. Hein. Quand vous passez ce fameux coup de fil, très souvent, vous tombez sur un assistant parlementaire. Et l'assistant parlementaire, il a entre 25 et 30 ans. Donc c'est quelqu'un de notre génération qui utilise Internet tous les jours, qui sait ce que c'est qu'un logiciel de peer-to-peer, qui sait ce que c'est à peu près qu'un client, qu'un serveur, qu'un MP3, qui sait que quand vous copiez un fichier 1 million de fois, c'est pas comme si vous voliez 1 million de pommes. Et des choses comme ça, un petit peu simples. Et donc c'est beaucoup plus facile de convaincre un assistant que son député. Lui, ensuite, derrière, pourra faire le travail. Donc c'est beaucoup plus accessible et facile que ce que vous pensez. Et je vous invite à essayer, parce que si au début on se casse un petit peu le nez, je vous invite à nous envoyer des mails pour nous raconter quand vous vous cassez le nez pour qu'on vous aide à mieux y arriver la fois d'après. Au bout d'un moment, on commence à prendre le pli, et puis au bout d'un moment, ça devient même amusant. Voilà.
Alors il y a quelques points que je veux préciser sur ce que vient de dire Jérémy. Le premier, c'est que sur la loi Hadopi, vous pouvez appeler énormément de députés, ça me paraît une bonne idée. Par contre, pour les habitants du deuxième, c'est pas la peine. Notre député, c'est Martine Billard, pour ceux qui ont suivi. Martine fait partie des députés qui ont lu le texte, qui sont contre avec de bonnes raisons, qui ont compris nos arguments lors de DAFSI et qui les ont pas oubliés. Elle a montré un soutien sans faille à tous les sujets qu'on a été amené à traiter. À la rigueur, on peut l'appeler pour lui dire merci, mais c'est pas la peine de l'embêter ou de la menacer, elle votera comme il faut. Ça s'est déjà réglé. Un autre point d'expérience, il n'y a rien qui fasse plus peur à un parlementaire que le fait de se rendre compte que ses électeurs le surveillent. C'est quelque chose de rare, savoir que des citoyens qui s'intéressent à ce qui se passe au Parlement européen, je ne sais pas si ça vous est arrivé souvent, Monsieur Lipietz, mais c'est rare, très rare.
C'est compliqué, hein, parce que, évidemment, on a des circonscriptions gigantesques. Donc, on ne peut pas dire qu'on on reçoit jamais 200 000 mails. Hein. Recevoir, en revanche, beaucoup de mails, c'est important. Les appels téléphoniques, bon, alors là, je ne veux pas ennuyer mes assistants et assistantes ici présents. c'est déjà un peu plus puissant. La représentativité des associations est aussi importante. Hein. Faut toujours mettre en valeur qu'on a plein de copains et tout et tout. L'argument en direct, je ne voterai plus pas pour vous. Je ne sais pas si ça fait vraiment peur. Hein. Parce qu'en général, on vote pour un paquet de positions et pas pour une seule loi. Cela dit, je crois qu'il faut... C'est pas tellement « je voterai pas pour vous dans 4 ans » ou « je voterai pas pour vous en juin prochain aux européennes », c'est « je vais vous embêter tout le temps parce que vous n'avez rien compris dans votre boulot à ce dont la société a besoin ». Parce qu'en général, bon, on prend... C'est très bien, il est espagnol et il est socialiste, hein, Medina. Donc il n'est pas directement concerné. Vous pouvez toujours téléphoner à M. Medina, hein, il parle le français. Medina, c'est pas un hasard, c'est le même qui... ce matin a voté avec tout bon pour le copyright à 95 ans, fait ce rapport, etc. Mais c'est le même qui, monsieur Repsol, c'est-à-dire la firme espagnole pétrolière, qui va en Amérique latine pour menacer les Boliviens, les Équatoriens, qui auraient la mauvaise idée de nationaliser leur pétrole. C'est-à-dire que c'est vraiment le représentant des forces monopolistes cherchant à enclore les biens communs, enfin, s'approprier les biens communs. C'est une logique de son esprit. Enfin, c'est un travail qu'il fait tout le temps, disons. C'est pas seulement dans 5 ans.
C'est curieux, le socialisme en Espagne. Il y en a dans tous les partis. Il y a un autre point là-dessus que j'ai bien remarqué concernant beaucoup plus les députés français, pour le coup. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas habitants du deuxième arrondissement, Un député français, ça a l'habitude de parler de loi dans l'hémicycle et de parler de passe-droit en local dans sa circonscription. C'est-à-dire quand quelqu'un vient voir en local, c'est pour se plaindre du voisin qui est pénible, c'est pour faire interdire de stationner devant chez lui, pour avoir une place à la crèche, pour régler un problème éminemment local. Voir débarquer quelqu'un du coin qui vient pour lui parler de ce qui se discute à l'Assemblée, c'est très déstabilisant pour un député. Ils n'ont pas l'habitude de se sentir surveillés dans ce qu'ils font à l'hémicycle. Ils ont l'habitude d'être surveillés par les caméras le mercredi pendant les questions au gouvernement. Mais alors par contre, quand ils sont en train de discuter des amendements incompréhensibles sur des textes mal écrits en commission, d'habitude on les laisse tranquilles. Et ils peuvent voter ça tranquillement à 12 la nuit. Ça se passe assez vite et assez gentiment. On est entre soi. Le fait que quelqu'un vienne les voir dans leur circonscription pour leur en parler... Si on vient les voir juste pour leur dire qu'ils ont fait des conneries, parce que c'est trop tard et que c'est voté, ça va les déstabiliser et les agacer. Si on vient les voir avant en leur disant « faites gaffe, ce texte est important, il y a des vrais sujets, il y a des vraies questions sur les droits fondamentaux, sur le développement d'Internet, sur etc. », ça peut les réveiller beaucoup plus que du spam. C'est beaucoup plus efficace que d'envoyer 30 fois le même mail. D'aller voir son député pour lui dire qu'il y a un sujet... Mieux vous pourrez obtenir de ce député-là, celui qui est à ma gauche, qui vous dise qu'il a très bien compris que c'est pas bien, mais qu'il vous sortira de bonnes raisons pour le voter quand même. C'est en général ce qu'on peut obtenir dans ces cas-là.
Moi, je voudrais juste me permettre aussi également d'ajouter une chose. J'ai eu la chance d'être également auditionné en même temps que Philippe Aigrin et Jérémy ce matin en commission à l'Assemblée nationale. Et ce que j'ai dit en substance, c'est une phrase de Beckett qui dit « L'humanité, enfin, qu'on soit d'accord ou pas, que ça nous plaise ou pas, l'humanité c'est nous et maintenant. » C'est-à-dire que l'Internet, bah, c'est maintenant. Les échanges de fichiers, ils existent, c'est un fait, c'est indéniable et ça se passe comme la technologie est là. La marche en avant est là, et c'est un énorme tsunami technologique qui avance et qui avance. Vous avez deux positions face à un tsunami. On l'a vu dans des événements tragiques il y a quelques années. Soit vous résistez, et en règle générale vous êtes emporté, soit vous essayez de fabriquer une digue, ce que font les majors, mais elle sera aussi emportée, soit vous utilisez l'énergie cinétique du tsunami à votre profit. Et c'est, je pense, cela qui est le plus important. C'est qu'est-ce que l'on veut ? Qu'est-ce que l'on veut faire ? Quel est notre choix ? Quelle est notre envie ? On peut rester passif face à ça. Et si on reste passif, on se fait emporter par le tsunami. Et ce que dit Alain Lipiette, c'est ce que dit Jérémy Zimmermann, et ce qui sera dit dans la table ronde après, sont des données absolument fondamentales. Ça a l'air... de rien, mais c'est extrêmement important sur l'avenir de l'Internet demain. Et il faut réagir, et vous avez les possibilités de réagir, et vous avez les moyens d'être aujourd'hui au cœur d'une révolution humaine, humaniste, sociétale, économique, enfin tout ce que vous voulez. C'est pas tous les jours que ça se produit. Vous avez, Alain Lipiette l'a dit, Benjamin l'a dit, il y a moyen d'influer sur son député, il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen d'être proactif. Soit on fait rien, et à ce moment-là, il ne faudra pas venir se plaindre que finalement c'était mieux avant, et que, oh là là, qu'est-ce que c'était bien Internet avant. Mais vous avez aujourd'hui les moyens d'être informé, d'être au courant, et d'agir de manière à ce que l'Internet de demain soit l'Internet que vous voulez, et non pas l'Internet que eux ils veulent. Parce qu'une fois qu'ils auront mis leur Internet, parce qu'eux, ils avancent, ils sont proactifs, ils font des choses, ils se bougent et ils actionnent. Et quand ils auront fait le leur, ils diront pas que c'était mieux avant, ils diront c'est vachement bien maintenant, parce que j'ai mis mon Internet. Et ce que j'essaye vraiment de dire, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser l'énergie de ce tsunami. Voilà, j'en finis là parce qu'il y a une autre table ronde qui nous appelle après et qui sera tout aussi passionnante. Merci pour votre attention.
Alors, on n'a quand même pas beaucoup donné la parole à mon voisin de gauche. Et il y a quand même quelques arguments très classiques qui sont développés là-dessus et sur lesquels j'aimerais essayer de les défendre et essayer d'avoir des réponses très, 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 très courtes de l'un de vous trois. Le premier des arguments, c'est celui qui parle de police privée, de condamnation toute faite automatique. Quand on râle contre Hadopi, on dit c'est de la condamnation systématique, automatique, etc. Sauf que ça, c'est le principe des radars routiers. Les radars routiers, ça sauve 5000 vies par an en France. C'est quand même pas n'importe quoi. Enfin, c'est bien comme ça que ça marche. Les gens ont arrêté de conduire comme des cons depuis qu'on a mis des radars et qu'on punit, qu'on condamne systématiquement, et on se contrefout de savoir qui était au volant. Hein. On condamne le propriétaire de la voiture. On discutera plus tard. C'est bien ça le principe d'Hadopi. Si on condamne le propriétaire de l'accès Internet, on discutera plus tard.
Exactement. Non, je plaisante. Alors oui, on nous a fait plein de signes pour dire qu'il fallait terminer, donc je vais vraiment faire court. La seule différence, c'est que si tu roules trop vite avec ta voiture, tu tues des gens. Alors que dire que quand tu télécharges, tu tues des artistes, c'est juste faux. À la rigueur, tu pourrais accélérer à tuer des producteurs qui ont un business model obsolète qu'ils essayent de faire perdurer, et ce serait peut-être une bonne chose. Mais des études sérieuses qui démontrent que le téléchargement sans autorisation nuit et fait baisser les ventes, bah, Mathieu est un exemple vivant du contraire. Nine Inch Nails et le million de dollars généré en une semaine et le numéro 1 des ventes de MP3 d'Amazon sont un autre exemple, et des études commissionnées par les gouvernements canadiens et néerlandais. Donc bref, okay. La voiture, ça tue des gens, et même quelqu'un qui de bonne foi dira « Ah mais moi, si je peux rouler à 180 km/h, hein, moi je sais, moi je gère », ce sera pas vrai.
Ok, j'en ai une deuxième dans les objections très classiques. Finalement, cette loi Hadopi, l'état du droit actuellement, c'est que les gens qui font du téléchargement, ils s'exposent à 3 ans de prison. La coupure de l'accès Internet, c'est quand même moins brutal que 3 ans de prison.
Le problème, c'est que la charge qui vient avant, elle exige, c'est-à-dire la riposte graduée. Dans la graduation, vous avez 1. Le viol de la vie privée, systématique. 2. Par un agent privé.
Bon, c'est pas de la vie privée, c'est du téléchargement de musique illégale.
Non, mais vous avez le droit. Ben, bon, vous envoyez un fichier de 1 méga. À la limite, une machine peut savoir, tiens, il y a un fichier de 1 méga qui est passé là. Pour qu'on sache que c'est déjà une musique, il faut au moins l'ouvrir. Si c'est la photo de votre petit ami en tenue d'Ève que vous lui renvoyez après une bonne Saint-Valentin bien arrosée, je ne vois vraiment pas ce qui autorise qui que ce soit à aller la regarder. Bon, mais si qui est autorisé à la regarder, c'est un des quatre majeurs. Après on vous fait le coup effectivement, parce que l'analogie n'est pas vraie du tout. On peut filer la métaphore du radar. Le radar, il est allé regarder. C'est pas la plaque qui est photographiée, c'est à l'intérieur, c'est ce que vous avez fait, c'est ce qu'il y a dans votre portefeuille qu'on va vous flasher. Hein. Bon. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a que les douaniers qui peuvent ouvrir le coffre théoriquement pour le moment. Hein. Bon. Et alors on peut regarder grade par grade, c'est pour ça que ça a été bloqué au niveau du Parlement européen avec soutien de la Commission, c'est un viol systématique à chacune des étapes de la riposte graduée des droits fondamentaux.
Je me permets d'intercepter le micro. 30 secondes, mais vraiment 30 secondes pour un complément de réponse. Quand on dit 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende, on oublie de préciser jusqu'à. Et c'est un maximum qui est réservé aux gens, par exemple les Chinois, qui font des millions de copies pour faire des sous avec. Donc c'est jusqu'à, et c'est très important, bon, il y a les peines planchées, mais c'est autre chose. C'est très important parce qu'à chaque fois, c'est un juge qui va apprécier, en fonction d'un préjudice qu'il va falloir démontrer, quelle sera la sanction. Et parce qu'il y a un juge, il y a un être humain qui juge, comme on dit, en son âme et conscience, et il y a un très très joli article du Code Napoléon qui est là-dessus. Il y a le contradictoire, et quand on n'est pas content avec la décision, on peut la contester, avec un peu de chance, avant d'aller en prison, ce qui n'est pas le cas avec la Hadopi. On ne peut pas contester les accusations, on ne peut contester qu'une fois qu'on a été déconnecté. Donc c'est techniquement beaucoup plus violent. Voilà.
D'accord. Alors, je vais reprendre les questions sur papier qu'on m'a fait parvenir. Je vais les lire. Il y en a beaucoup auxquelles je sais répondre moi-même, donc je me permettrai d'y répondre vite parce qu'il faut qu'on rende l'antenne, comme on dit. Alors, comment le Sénat a-t-il pu voter à l'unanimité Hadopi ? J'ai pas de représentants de tous les partis, mais schématiquement, faudrait leur demander à eux. Comment ils ont pu ? Je ne sais pas, en général, en matière de politique, quand on termine à voter un texte à l'unanimité, majorité et opposition, c'est qu'il y a eu quelque chose en échange. C'est « tu me donnes ça, je te donnerai ça ». D'habitude, c'est comme ça. Donc je ne sais pas ce que l'UMP a offert au PS pour que le PS vote ça. J'en ai pas la moindre idée. A priori, sans lire, parce qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, le débat au Sénat a été très court. Quel est le niveau de son expertise ? Celle du Sénat, faible. Tendance marginale. L'image d'Épinal qui veut que les sénateurs soient vieux n'est pas vraie. La moyenne d'âge au Sénat est à peine plus élevée qu'à l'Assemblée. Mais dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas affaire à des informaticiens. Ce qu'il y a de plus informaticiens à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ce sont des gens qui ont des compétences certes, mais relativement anciennes, qui connaissent les nouvelles techno, mais pas plus que l'utilisateur moyen. C'est-à-dire que les gens les plus brillants sur ces sujets-là, ça va être des gens comme je donnerai pas de nom, mais j'en ai rencontré un hier soir. Lui, il connaît un peu le sujet, mais pas plus que ça, quoi. Il sait utiliser un navigateur, il sait lire son mail tout seul, il sait probablement y répondre tout seul. Par contre, il sait pas ce que c'est qu'un routeur et il a du mal à visualiser ce que c'est qu'une adresse IP. Combien ça coûte Adopi ? Cher. Très cher. Les estimations en budget, c'est plusieurs dizaines de millions ?
6,7 millions.
C'est 6,7 millions. Plus les frais que vont facturer les opérateurs pour identifier. Donc ça fait probablement autour de 10 à 15 millions d'euros. Un point important à noter sur...
Par an ?
Oui, par an.
Par an ?
Un point important à noter sur ces 15 millions d'euros, il n'y a pas un euro pour la rémunération des artistes. Adopi peut-elle être efficace si l'on copie des fichiers sur les supports amovibles, CD, DVD, disque dur, clé USB, etc. Réponse non. Ça ne peut pas être efficace. Adopi, ça vise à faire des écoutes sur le réseau. Donc si ça ne transite pas sur le réseau, ça n'est pas concerné. Si on crypte le fichier avant de le mettre sur un réseau, bien évidemment, Adopi ne fonctionne plus. C'était la question d'après. Donc oui, si vous chiffrez vos fichiers avant de les envoyer... les gens peuvent écouter, ils ne savent pas ce qui passe. Donc ils seront au mieux capables de dire que vous échangez un contenu, selon un protocole suspect. C'est louche. Ah ça, échanger des contenus, c'est louche. C'est très louche. C'est comme quand il y a des gens, des fois, ils écrivent des textes et ils les font imprimer, c'est très suspect, les moines copistes étaient contre. Une adresse IP peut-elle être usurpée ? Oui, et ça c'est un point fondamental qui n'a pas été évoqué pour le moment, qui est une des plus grandes faiblesses du texte. Techniquement, usurper une adresse IP, c'est relativement simple. Là, comme ça, spontanément, il me viennent au moins 4 ou 5 moyens qui sont tous parfaitement efficaces. Le plus courant...
Et légaux ?
Non, pas légaux, mais c'est pas grave. Le plus fréquent étant le simple fait de pirater la borne Wi-Fi du voisin. Ce qui se fait vraiment...
C'est pas illégal s'il a pas mis de clé.
Il est précisé qu'il faut se sécuriser.
Oui, il faut se sécuriser. Il n'y a pas de méthode de sécurisation à l'heure actuelle qui fonctionne. Donc... Il y a moyen d'usurper une adresse IP, et surtout, alors là pour le coup il faudrait que je rentre dans de la technique, je vais vous l'éviter. Basiquement, quand un opérateur, un fournisseur d'accès note quelle adresse IP il vous a donné, quel jour, à quelle heure, pour lui c'est une information qui n'a aucun intérêt parce que c'est une information qui ne sert pas à facturer. Donc il accorde un effort à la production de cette information qui est nul. Donc si l'information est fiable, tant mieux, si elle n'est pas fiable, tant pis, de toute façon, lui il s'en fout. Autant savoir à qui vous avez téléphoné pendant combien de microsecondes, c'est vital pour facturer. Et si jamais il n'arrive pas à noter exactement la bonne info sur quel appel vous avez passé, la communication ne passera pas. Par contre, si au moment d'établir votre connexion à Internet, il n'arrive pas à noter dans le fichier quelle adresse il a donné à qui, c'est pas grave, on va quand même vous donner une adresse, vous allez surfer, puis voilà. Et donc ça veut dire qu'on va condamner sur des éléments de preuve qui ne sont pas considérés comme fiables. Donc, au mieux, à l'heure actuelle, quand on travaille déjà, il y a déjà des collaborations entre la police et les opérateurs pour identifier des adresses IP, en général, dans des affaires assez sérieuses. Moi, j'ai vu passer des réquisitions judiciaires chez les opérateurs où je travaillais pour des affaires de cambriolage, de viol, de meurtre, enfin, je veux dire, du vrai, quoi, du quitache. Très clairement, le juge, il va condamner personne s'il n'y a que l'adresse IP. S'il y a plein d'autres éléments, il prendra ça comme étant un des 35 indices. Mais c'est de la même puissance de preuve qu'une empreinte de pas. C'est une empreinte de pas, ça dit c'est quelqu'un, il chose du 42, il porte des godasses de telle marque. Ça fait quand même une grosse partie de la population. Une adresse IP, c'est à peine plus fiable. Et on va utiliser ça comme un élément de preuve aussi fiable que la plaque d'immatriculation d'une voiture, ce qui est techniquement extrêmement dangereux.
Alors, désolé, vu qu'on arrive, on a des résumés des questions par là, je vais passer la parole à Lionel, et vraiment des réponses très courtes, il faut qu'on arrive à 20h30 à finaliser. Il y aura une transition après rapide, parce que cet événement en fait est organisé il y a 2 semaines, parce qu'il y a eu un monsieur qui nous a dit j'ai envie de prendre une parole sur les assises qui étaient Daniel Cohn-Bendit. Finalement, c'est l'anniversaire de son fils, il s'est porté dans son agenda. Mais nous, on voulait quand même maintenir l'activité, donc on lui passera quand même. Il voulait être présent, donc on a un petit discours qui nous passera, puis la deuxième table ronde s'installera. Lionel.
Alors, les questions qui ont été posées peuvent se synthétiser assez simplement. Ça tourne pas mal autour du problème de la notoriété. Alors, du côté des artistes, on a parlé de Nine Inch Nails, mais est-ce que, justement, pour Nine Inch Nails, ça n'a pas marché précisément parce qu'ils avaient eu des majors à un moment derrière eux pour assurer la promotion et investir? Et du coup, est-ce que cet investissement, ou en tout cas cet argent, ce travail de promotion, est-ce qu'il ne mérite pas un salaire? Et du côté, plus des gens qui sont les intermédiaires pour les artistes, une question très simple, c'est comment est-ce que des gens qui prennent l'autre position, par exemple In Libro Veritas, arrivent-ils à vivre et à se rémunérer?
Je vais répondre rapidement. Je vais répondre, je passerai la parole à Alain Lipietz après. Alors, comment j'arrive à vivre? Je vais répondre tout bêtement, c'est en vendant des livres. Voilà. Donc, plus je vends de livres, plus d'argent rentre dans ma société et plus je peux pérenniser ma société, donc mon salaire en tant que gérant, enfin mes rémunérations, et le salaire de mon employé qui est peut-être l'unique employé de France qui vit grâce à une société qui fait de l'argent. Voilà, donc c'est plutôt rigolo. Donc, plus je vendrai de livres, plus In Libro Veritas vendra de livres, plus il y aura d'argent qui rentrera dans la caisse, plus on pérennisera la société. Et pour vendre de livres, il faut que ça se sache, il faut que ça se connaisse. Alors, j'ai un exemple très simple d'un livre qui s'appelle Simple comme Ubuntu, qui est donc la meilleure vente d'In Libro Veritas et qui fonctionne non seulement, évidemment, sur le papier, mais qui cumule plusieurs centaines de milliers de téléchargements. Et évidemment, on se doute bien que les centaines de milliers de téléchargements ne sont pas des centaines de milliers d'achats potentiels qui sont ratés. Évidemment, c'est une certitude. Par contre, ces centaines de milliers de téléchargements, accouplés à l'énorme popularité du site avec lequel je travaille, qui s'appelle Framasoft, avec qui donc on fait la collection des Framabooks, et adossé à une communauté énorme de Ubuntu FR, qui donc est extrêmement active, proactive, etc., et qui fait bouger beaucoup de monde. Tout ça, ce sont des bouts de notoriété, et donc ce que je disais tout à l'heure, de marketing, qui font que les gens connaissent le livre et vont l'acheter. C'est aussi bête que ça. Et encore une fois, les livres sur lesquels je n'arrive pas à faire de marketing, j'ai beaucoup de mal à les vendre. Alors, il y a des livres qui sont difficiles à vendre, mais malgré tout, ça vient de là. Donc, pourquoi ça fonctionne? C'est parce que c'est connu et qu'on fait de la communication, tout bêtement, et qu'on fait connaître l'artiste, on fait connaître l'œuvre, on fait connaître le livre, et grâce à ça, il se vend. Voilà, une partie de la réponse, et je passe le micro à Alain.
Oui, je voudrais répondre sur cette question de notoriété, parce que ça désigne que la guerre des majors pour s'approprier l'espace commun de la culture est aussi une guerre offensive contre la création en dehors de leur enclos. Et je vais vous en donner, je vais vous lire un exemple, parce que c'est 3 lignes. J'avais signalé à un critique d'une revue littéraire une œuvre publiée sur In Libro Veritas en lui disant « Mais pourquoi les critiques littéraires ne s'intéressent pas à la production culturelle en ligne ?» Et il me répond, je vous lis, « Sur le fond du problème que vous exposez, la réponse est malheureusement sans équivoque. Aucune des publications littéraires auxquelles je participe régulièrement à la quinzaine littéraire ou très épisodiquement Europe, 19 continents ou des revues comportant des articles littéraires diasporiques n'accepte de publier des critiques de livres n'émanant pas d'une maison d'édition. Les publications électroniques, parce qu'elles se refusent pour l'instant à sélectionner ce qu'elles publient, comme tout bon éditeur se doit de le faire, vous n'avez qu'à aller dans une librairie, vous verrez, sont considérées, à tort parfois, mais il faut le dire rarement, comme nulles et non avenues. Autrement dit, non seulement elles veulent faire payer les majors ce qu'elles publient, mais elles refusent
et c'est un, exprime visiblement une politique arrêtée des revues dont il parle, elle refuse de parler du hors-champ, c'est-à-dire du libre.
Je me permets de pirater le micro pour une toute petite réponse à ça, par quelques éléments de certitude que j'ai à ce sujet-là, qui sont que, un fan, quelqu'un qui aime un artiste, sera toujours prêt à le rémunérer d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement. Deux, donner son œuvre quand on est un artiste, c'est le meilleur cadeau que l'on puisse faire autour de soi. Et c'est la meilleure carte de visite, c'est le meilleur outil marketing. Ensuite, les gens, avec Internet, sont potentiellement les meilleurs agents marketing qu'on ait jamais vus. Et donc vous mélangez tout ça, vous arrêtez de traiter les gens comme des pirates, des voleurs, des pillards, des violeurs, des nazis, des je sais pas quoi. Et puis roule, voilà, des pédophiles, voilà. Non, roule. Roule ma poule.
Enfin, la lettre, je suis à la fois estomaqué et pas étonné du tout. Je vais juste vous donner une anecdote. Je discutais une fois avec un juriste et je lui expliquais donc ce que je faisais et que je ne faisais pas de cession de droit dans mes contrats. Voilà, je dis, je veux pas de cession de droit. C'est comme ça, j'ai décidé, je suis éditeur et je veux pas de cession de droit. Et il m'a regardé, il était très embêté, il a tourtillé, il a discuté avec moi, etc. Puis on s'est revus le lendemain et puis il est venu avec la banane comme ça, il dit, mais vous, ça y est, c'est bon, j'ai compris, vous n'êtes pas un éditeur. Et je dis, mais pourquoi je ne suis pas un éditeur ? Il dit, parce que vous ne faites pas de cession de droit. Et donc, à partir du moment où vous ne faites pas de cession de droit, vous ne rentrez pas dans la case du Code de la propriété intellectuelle, je suis absolument incapable de vous dire laquelle, mais il y a une case dans laquelle il est explicitement dit, s'il y a une cession de droit, à ce moment-là, vous êtes éditeur. S'il n'y a pas de cession de droit, bah, vous n'en êtes pas un. Donc, il considérait qu'In Libro Veritas n'est pas un éditeur. Donc, d'un revers de main, l'ensemble des auteurs était balayé, puisqu'on n'est pas des auteurs. Et voilà, donc on voit à quel point on a une résistance farouche qui est, moi je le ressens en tant qu'éditeur, mais je suis producteur de disques, j'imagine que c'est la même chose. Donc à partir du moment où c'est libre ou gratuit sur le web, c'est louche quoi. Il y a un truc qui est pas normal. Vous faites, c'est quand même bizarre. Si c'est gratuit, c'est qu'il y a un truc, il doit y avoir une anguille sous roche. Et je dis mais non, pas du tout. C'est simplement un nouveau modèle. Et puis voilà, ça s'inscrit dans le sens de l'histoire. Mais en fait non, pas du tout. En fait bon, ça a à peu près aucun intérêt.
Alors il y a d'autres questions. Le problème c'est que ce que je propose, si vous êtes motivé, c'est qu'on est ici dans un endroit qui est particulier, c'est là où la communauté du logiciel libre se réunit de temps en temps, il y a des bars avec des bières. Pour ceux qui veulent qu'on ait d'autres questions, voilà, évidemment je ne peux pas engager tous les conférenciers, mais l'idée c'est de continuer parce qu'on a un planning à respecter. Je souhaiterais que la deuxième table ronde s'installe. Si tu en es d'accord, Benjamin, peut-être juste une conclusion rapide, je suis vraiment désolé.
En forme de conclusion rapide, je pense que vous en apprendrez beaucoup plus et de manière plus intéressante sur le problème de fond, le vrai, celui qui n'est pas abordé par la loi, qui est de savoir comment on peut rémunérer les artistes. Ça, c'est Philippe et ses collègues qui vont vous en parler juste après. Les vrais problèmes qui sont abordés par la loi et qui font souci sont des problèmes de liberté d'expression, de respect des droits fondamentaux, de respect du contradictoire dans les jugements. Excusez-moi, je vais me déplacer. Là, en face du haut-parleur, ça l'arsène. Ce sont des problèmes qui n'ont rien à voir avec la création, qui ont tout à voir avec Internet. C'est une des raisons pour lesquelles ce texte de loi, a priori, ne résoudra rien et ne servira à rien. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il soit voté. Il sera voté après des débats agités. Il sera voté avec pas mal d'amendements, probablement relativement cabossés et probablement encore moins applicables qu'il ne l'est maintenant. Mais je pense qu'il sera voté quand même. Parce que je ne vois pas la majorité actuelle renoncer à un texte que le président a déclaré comme étant emblématique. Cependant, je pense qu'il ne sera jamais sérieusement appliqué et qu'il servira à peu près à rien. C'est-à-dire qu'à part avoir créé des trous juridiques extrêmement dangereux sur les atteintes à la vie privée, sur les atteintes aux libertés, sur l'intervention d'un juge pour condamner, etc., il servira certainement pas à changer quoi que ce soit au modèle économique en cours autour de la musique et donc à rémunérer les artistes. Je pense que In Libro Veritas fait beaucoup plus dans ce domaine-là que les trois derniers projets de loi sur le sujet. Donc voilà, on aura besoin de vous tous en tant que citoyen pour faire peur aux députés. Il y a une des choses dont on n'a pas encore parlé qui leur fait assez peur pendant les débats, c'est qu'on les écoute. Je me souviens des débats sur DAFSI. Quand ils se sont rendus compte dans la nuit du 22 ou 23 décembre qu'on était 15 000 à suivre les débats en direct, les débats chiants avec des interruptions de séance, des rappels au règlement, enfin toutes les beautés du débat parlementaire, on était 15 000 à suivre en pleine nuit, juste avant Noël, et c'était jamais arrivé. Ça leur avait fait pas peur, mais bizarre. Ils s'étaient sentis surveillés. C'est important qu'ils se sentent surveillés. On a le droit d'écouter ce qu'ils disent. Il ne faut surtout pas s'en priver. Voilà.
Merci, merci beaucoup. Donc, la seconde table ronde peut s'installer. Rico. Et on va passer le petit film de Cohn-Bendit. On est prêt ? Son petit mot. C'est parti.
Combat des Verts européens contre le brevet logiciel, contre la riposte graduée, combat qu'on a mené au Parlement européen, et donc vous expliquer un peu la position d'Europe Écologie sur la loi Hadopi. Moi, je crois que les choses sont simples. Le droit à Internet est un droit fondamental. C'est une extension des droits fondamentaux, et donc il est impensable qu'il y ait une entreprise ou quelqu'un qui puisse couper ses droits, interdire l'accès à Internet à qui que ce soit. Alors, cette loi, en fait, empêche un vrai débat. Il y a un vrai débat, c'est-à-dire comment permettre que ceux qui vivent de la culture puissent en vivre, c'est-à-dire comment trouver des formes donc de gestion collective, de contrat collectif qui permettraient donc à ceux qui ont écrit quelque chose, qu'on produit une musique, même qu'on fait produit une pièce, etc., puissent, grâce à ces contrats collectifs, être rétribués. C'est un combat difficile, c'est un débat difficile, mais je crois qu'on trouverait de bonnes solutions. La loi actuelle est liberticide. Elle s'attaque surtout après, à la fin, peut-être aux jeunes. Déjà pendant la campagne présidentielle, d'ailleurs, Ségolène Royal avait très bien réagi là-dessus. Le téléchargement fait partie des nouvelles cultures, de la nouvelle culture, et donc il est impensable pour nous de l'interdire. Et d'ailleurs, il y a des grands musiciens comme Sting, par exemple, et d'autres qui mettent à disposition du net leur production musicale ou d'autres leur production écrite. Ça va dans la bonne direction. Donc, vous savez qu'au Parlement européen, il y a eu un amendement proposé par un député socialiste Bono et par moi-même, justement, pour interdire la riposte graduée à la française, pour qu'il y ait au moins une procédure juridique qui encadre ce genre de riposte. Eh bien, je crois que nous continuerons comme cela au Parlement européen. Maintenant, d'ailleurs, la loi française ne correspond pas pour l'instant à la directive européenne. La directive européenne est en débat. Donc, Europe Écologie est bien placée et les Verts européens sont bien passés pour continuer à mener ce combat pour la liberté sur Internet, comme nous l'avons fait dans le débat sur les brevets de logiciels. Oxy Radio.